adapté par Simon Vordow. Et le sujet, c'est le psaume 62, verset 6. Oui, mon âme, fais silence devant Dieu. Je voudrais lire avec vous le psaume 62, versets 6 et 7. Oui, mon âme, fais silence devant Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse. Je ne chancellerai pas. Le petit mot « oui » vient encore renforcer ces versets et vient dire combien c'est important. Peut-être que ces versets ne vous soient pas très connus, du moins de la plupart d'entre vous, ou en tout cas des plus jeunes. Mais je veux surtout parler du contenu de ces paroles, du vécu de ces paroles. Avez-vous vécu ces pensées? Mon âme fait silence devant Dieu. En anglais, ce texte est rendu par « Attends mon âme, attends Dieu dans une situation de quiétude. Car c'est Dieu mon rocher et mon salut, c'est Dieu ma forteresse, et je ne chancellerai pas. » Et c'est encore bien plus beau de vivre ce qui est caché dans ces pensées, dans ces paroles. Et c'est cela ma prière en ce moment, pour vous et pour moi-même. Je prie que le Saint-Esprit touche nos cœurs et qu'il les illumine, de sorte que ce ne soit pas seulement des paroles, mais que nous goûtions et que nous vivions le contact et la rencontre avec Dieu. Seigneur, aidez-moi à parler et aidez les autres à écouter. Touchez nos cœurs. Au moment où David dit les paroles de ce psaume, il était angoissé, car des hommes en voulaient à sa vie, et David avait peur d'être assassiné. Quand on lit tout le psaume 62, on se rend compte du contexte de cette prière. Donc, David s'adresse à sa propre âme. Et l'âme, c'est ce que l'on a de plus intime. C'est là qu'on se sent bien et heureux. Ou encore, au contraire, c'est là qu'on se sent blessé et malheureux. On est touché dans son âme, dans son cœur, dans ce que l'on a de plus profond. Et c'est là notre domaine le plus personnel, le plus privé, et qui doit être respecté par les autres. C'est là que se trouve ce qui fait qu'on est ce que l'on est. Moi, je suis Simon, et je suis unique. Ma femme trouve cela très beau depuis longtemps. Et c'est pour cela que nous nous aimons. Il y a un bon noyau dans l'homme, et ce noyau s'appelle âme ou cœur. Dieu nous a créés ainsi, et c'est cela qui nous distingue de Dieu lui-même, des anges, et c'est cela qui fait que nous sommes tout différents des animaux. La chose la plus précieuse de notre vie humaine, c'est notre personnalité. Et c'est cela qui attire Dieu. Pierre le décrit dans sa lettre 1 Pierre chapitre 3. Quand il parle de la parure du cœur, l'être secret, la parure impérissable d'un esprit doux et paisible, et qui est d'un grand prix devant Dieu. Tous nous avons un être matériel et visible. Mais nous avons tous également un être intérieur, notre âme et notre esprit. Et le noyau, c'est l'âme. C'est l'être le plus profond qui doit être enveloppé d'un esprit doux et tranquille. Et pour ceux qui sont baptisés d'Esprit Saint, ce qui, j'espère, est votre cas, cet Esprit est caché en Dieu. N'est-ce pas merveilleux? L'être intérieur, enveloppé de son Esprit, lui-même enveloppé du Saint-Esprit, et qui habite, qui vit dans un corps physique. Il est bon d'être un homme ou une femme, ne trouvez-vous pas? Jésus dit que la pire des choses, c'est le malheur qui arrive à l'âme, car c'est l'endroit le plus vulnérable. Et c'est pour cela que nous faisons bien de confier notre vie à celui qui a dit « Je suis le bon berger et je donne du repos à vos âmes ». Jésus est celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et notre âme est en sécurité auprès de lui, aujourd'hui et dans l'avenir, et pour toutes choses, et jusqu'à la vie éternelle avec Dieu. Donc David se parle à lui-même. Quelquefois, il est bon de se parler à soi-même. Mais il faut le faire avec l'Esprit Saint, de sorte qu'ainsi Dieu se fera connaître lui-même. Une autre traduction de ce verset, c'est « Oui, mon âme, cherche ton repos auprès de Dieu seul. » Et cela me fait penser à l'invitation de Jésus. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Et je vous donnerai du repos. Faire silence et se tourner vers notre Dieu avec notre cœur, ce n'est pas se tourner vers le cosmos ni vers le vide. Ce n'est pas non plus une introspection en soi-même pour y trouver quelque chose. Non, lorsque David prononce ces paroles, il sait bien ce qu'il dit. Il connaissait Dieu parce qu'il le rencontrait. Il avait été oint par Samuel. Et à partir de ce moment-là, il connaissait l'œuvre directe de l'Esprit-Saint dans sa vie. Et depuis, ce qui pouvait lui arriver de pire, c'était de s'apercevoir que l'Esprit-Saint s'était retiré de lui. Dans le psaume 51, verset 13, il le dit « Ne me retire pas ton Esprit Saint ». Alors il confesse son péché, c'est-à-dire l'adultère avec Bethsabée, et il demande pardon. Car voilà la raison pour laquelle l'Esprit Saint s'était retiré de lui. David crie à Dieu « Ne me retire pas ton Esprit Saint, je ne peux le supporter ». Parce qu'ainsi je ne peux plus te rencontrer. Ce texte dit qu'on ne peut trouver de vrai repos nulle part ailleurs, sinon auprès de Dieu seul. Notre Dieu, qui est immensément grand, il est non seulement un océan de vie et de dynamisme, mais il est aussi une immense quiétude. En méditant les paroles de David, on voit en fait un homme qui est en contact avec Dieu, ou une créature qui est consciente de son Créateur, un enfant qui est en relation avec son Père, un disciple qui est assis au pied de son Maître. C'est comme lors de la scène, le dernier repas, lorsque Jésus est à table avec ses disciples. Tous sont couchés à table avec Jésus. Mais du disciple Jean, il est dit qu'il était penché sur le sein de Jésus. Mais quelle belle description de la tendresse qui existe entre un disciple et son maître. Un homme peut donc être en contact avec son Dieu d'une façon intime, la tête sur son cœur. Comme cela doit être bien heureux, n'est-ce pas? dans n'importe quelle circonstance, même les difficiles, même quand il y a de l'inquiétude et des questions sans réponse. Poser sa tête avec tout ce qu'il y a dedans, la poser sur le cœur du Maître. Alors l'âme se tourne vers Dieu en silence. Lorsqu'on se rend compte que Dieu est notre Créateur et qu'on se rend compte que son amour est immense, et lorsqu'on goûte cet amour et qu'on voit combien Dieu est grand, alors il arrive qu'on reste muet dans sa présence. Dieu aussi, il se tait parfois. On le lit dans Sophonie, chapitre 3, verset 17. Il est écrit, « Il se tait dans son amour. » Mais ce silence-là est chargé d'énergie et de chaleur. Ce silence dans la rencontre avec Dieu, dans le contact avec Jésus-Christ, est toujours associé à l'espoir. C'est parce qu'il va arriver quelque chose de positif. Regardez les mamans avec leur bébé dans les bras. Ces charmants bébés regardent leur maman avec bonheur. Et aussitôt, leur petite tête se penche vers le sein, car ils veulent boire. Parce que le lait, c'est la source de leur vie. Moi-même, j'ai eu des enfants, et je me souviens bien de ce beau regard-là. Dans toute bonne famille, les enfants grandissent dans l'amour. Et ces enfants s'attendent à quelque chose de la part de leurs parents. L'enfant attend instinctivement de ses parents qu'ils vont le conduire vers un bon avenir. L'enfant sent qu'il recevra de ses parents les bonnes impulsions pour la vie. Il attend d'eux qu'ils lui donnent les moyens et qu'ils le conduisent et qu'il le supervise dans son développement. Et même lorsque l'enfant aura grandi et qu'il aura quitté la maison, ses parents continueront à prier pour lui, et ils resteront concernés par son bonheur. Il y a donc cette attente de la part de l'enfant, cette attente de vie. Et nous, qui savons avec certitude que nous sommes une créature de Dieu, du Dieu vivant, et que par Jésus-Christ nous sommes une nouvelle créature, nous regardons aussi vers notre Créateur, vers notre Sauveur et Maître. Et dans cette rencontre avec Dieu, nous attendons aussi que la force et la sagesse viennent de Lui, pour guider et pour conduire notre vie. Parce que nous savons que Lui seul a toute la puissance au-dessus de tout et au-dessus de tous, et qu'Il est la tête de l'Église. Le disciple qui est couché près du cœur de son maître et qui le regarde, il est en paix, parce qu'il s'abandonne à lui. Et de cette façon, la tête près du cœur du Seigneur, on est au plus près. Et on entend sa voix. Et ainsi, on regardera aussi ses mains et on découvrira où il veut que nous allions et ce qu'il attend vraiment de nous. Dans Matthieu, chapitre 15, verset 27, nous lisons l'histoire de la femme cananéenne, une païenne donc. Elle vient à Jésus et elle attend quelque chose de lui. Elle avait appris quelque chose en regardant les chiens, car même les chiens, dont le maître ne donne pas à manger, ils peuvent tout de même manger les miettes qui tombent de la table. Donc, la foi de la cananéenne et son attente furent récompensées par Jésus, avec la puissante délivrance et la guérison de sa fille. Mon âme, tourne-toi vers Dieu en silence. Isolons-nous quelquefois et prions notre Père dans le secret. détachons-nous des humains, des situations, et peut-être même des mauvais esprits. Attendons-nous à quelque chose de lui, parce qu'il est fort comme un roc, et c'est de lui que vient notre salut. Il est une forteresse, et il ne chancelle pas. Quand on étudie le psaume 62, on voit qu'en fait, David dit ces paroles deux fois. Au verset 1, il dit « Ah, en Dieu mon âme, fais silence, car mon salut vient de lui. Il est mon roc, mon salut, ma culmination, et je ne chancellerai guère. » Guère. Donc, il ne chancellera pas trop. Juste un peu peut-être. Mais en cherchant Dieu et en confessant sa foi, il arrive à tenir plus ferme sur ses jambes. Et ainsi, un peu plus loin, au verset 6, il peut dire « Ah, pour Dieu mon âme, fais silence, mon espoir vient de lui. Ah, il est mon roc, mon salut, ma culmination, et je ne chancellerai pas. » Avez-vous aussi l'impression de chanceler trop facilement? J'ai trouvé ces paroles très subtiles, et j'en remercie le Seigneur. Les psaumes décrivent si bien les sentiments et les situations où peuvent se trouver les hommes. Jésus aussi a trouvé sa force dans les psaumes. Il s'y est découvert lui-même. C'est là qu'il a découvert qu'il était le Christ et ce que Dieu attendait de lui. Même les détails de sa souffrance, de sa mort, de sa résurrection s'y trouvent. Jésus lisait la Bible. Il était éduqué dans la Bible et il s'y est identifié. Non seulement Jésus lisait ces belles paroles encourageantes, mais encore, il savait que le plan de Dieu, le plan que Dieu avait pour lui, y était enfermé. Jésus s'appropria ces paroles en les partageant avec son Père et en les méditant dans le silence. Et c'est ainsi qu'il a découvert qu'il était lui-même cette parole. Sa tête était près du cœur de son Père, près du cœur de Dieu. Et là, il apprenait et il découvrait comment il pouvait grandir. Plus tard, quand Jésus est adulte et qu'il est occupé dans son ministère, il recherche régulièrement des lieux tranquilles où il pouvait être seul avec son Père. Et même s'il allait à travers tout le pays, qu'il prêchait, qu'il avait des discussions pastorales jusqu'au milieu de la nuit, il se souvint du psaume 62 et il se retira. C'était merveilleux. Il y avait alors des barques qu'il n'y avait qu'à prendre pour faire un tour sur le lac. Il est bon de se retirer dans la nature, dans le silence, et d'être ainsi seul avec Dieu. Jésus allait aussi dans la montagne pour être seul, pour se reposer un peu et pour être avec Dieu. Il envoyait d'ailleurs aussi la nécessité pour ses disciples. Et c'est pourquoi, de temps en temps, il les prenait à part et il les invitait à aller dans la nature, à l'écart, pour se reposer de leurs occupations quotidiennes. Il est important de faire silence. D'ailleurs, lorsque Jésus choisit ses disciples, les 12, la première chose qu'il leur dit, quand il les a appelés, c'est « Je vous ai choisis pour être avec moi. » Et cela m'a très fortement frappé. Donc, le tout premier but, c'est d'être avec Jésus. C'est d'avoir cette relation de confiance, cette relation personnelle avec Jésus. Et là où c'était nécessaire, Jésus apporta le silence. Nous voyons cela dans les délivrances, quand des personnes étaient possédées. Une seule parole d'autorité du Maître était suffisante pour lier l'inquiétude et les mauvais esprits qui la provoquent. Et il s'ensuivit le calme, la détente, la guérison. Le silence vint. Nous pensons à ce possédé qui est guéri par Jésus et qui ensuite est tout à fait saint d'esprit. Il s'assied, habillé, aux pieds du Maître. Notre Jésus est maître de tout. Il peut même parler à la tempête et la réduire au silence. Tel est notre Jésus. C'est lui qui a toute puissance sur la terre et dans le ciel. Et lorsque les disciples n'arrivent pas à chasser les mauvais esprits et ainsi délivrer quelqu'un, alors ils décident d'aller vers Jésus pour lui demander « Mais qu'avons-nous fait de travers ? Comment cela fonctionne-t-il ? » Et quand Jésus a parlé du royaume des cieux, et que les disciples ont plus de questions que de réponses, ils cherchent le Maître pour débattre avec lui et pour apprendre de lui. Si nous méditons ceci, nous découvrons que ces paroles contiennent un secret. Et le secret, c'est la rencontre, c'est le contact avec Dieu. Et c'est un bienfait pour notre vie. Dans le psaume 73, verset 28, David s'écrit « Pour ce qui me concerne, il est bon d'être avec Dieu. » Tout était important dans la vie de David, mais une chose dépassait toutes les autres, c'est-à-dire la proximité avec Dieu, la proximité de Dieu. Mon âme fait silence devant Dieu. Je veux encore parler d'une autre facette de ce message. Le silence, ce n'est pas être seul et solitaire. Dans Jean chapitre 8, verset 29, Jésus dit « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne me laisse pas seul. » Parce que moi, je fais toujours ce qui lui plaît. Les disciples abandonnent Jésus dans la phase la plus difficile de sa vie. Jésus l'avait d'ailleurs prédit, « Vous m'abandonnerez tous. » Pourtant, Jésus avait dit aussi, « Je ne suis pas seul, parce que mon Père est avec moi. » Le seul endroit où Jésus était vraiment seul, c'était sur la croix, lorsqu'il fut abandonné par Dieu et que toutes les ténèbres se concentrèrent sur lui. Dans le monde physique aussi, les ténèbres survinrent. Cet abandon de Dieu qui fait que Jésus s'écrit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelle terrible solitude que celle de Jésus, que celle que Jésus a connue avec toute la dette du péché du monde sur lui. L'Esprit Saint l'avait quitté, et il était seul et nu, attaché à la croix. Jésus seul a connu cette profonde solitude, Dieu merci. Mais il était l'unique qui était capable de le faire, en sorte que tous les humains, vous et moi, ne soit plus obligé d'être seul ou sans Dieu. Comment faire pour décrire avec des mots cette terrible angoisse de Jésus? Vous pouvez peut-être vous la représenter et ainsi arriver à une profonde adoration de celui qui a accompli cette œuvre, celui qui a été fidèle jusque dans la mort. notre Jésus. Il est si grand. Et nous pouvons ainsi l'adorer, le croire et lui faire confiance avec tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Merci Jésus, et ce que vous avez fait est si grand. C'est pour cela que Jésus est le Consolateur qui peut nous comprendre, lui seul. Pour ce qui me concerne, lorsque je suis en conversation avec des personnes qui vivent des circonstances difficiles, j'ai appris à ne plus dire « je te comprends ». Parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de peines et de souffrances et de tristesses que je ne peux pas comprendre. Par exemple, lorsque quelqu'un perd son compagnon ou sa compagne, la seule personne qui puisse vraiment comprendre cela, c'est celle qui a vécu cela aussi. Cependant, si nous nous savons nous-mêmes aimés de Dieu, nous pourrons alors approcher l'autre avec amour, avec tendresse et discrétion. Comme Jésus consola les affligés avec l'affection du Père. Jésus guérit ce qui était abîmé en se donnant lui-même avec toute sa richesse. La solitude est un mal que connaissent beaucoup de personnes, des chrétiens aussi. Et il arrive que la solitude soit tellement insupportable que des personnes se suicident. Des enfants connaissent la solitude parfois, suite au divorce de leurs parents ou suite au décès des parents. Des enfants peuvent vraiment souffrir. Des adolescents aussi. La solitude, c'est le cas de ceux qui n'ont pas ou qui n'ont plus de partenaire de vie. Ou de jeunes qui ne trouvent pas de partenaire de vie. À l'école, au travail, dans la société, dans l'église, partout, il y a des personnes très seules. Des personnes qui se sentent exclues et incomprises. Et peut-être que vous êtes comme cela maintenant. Dans le psaume 25, au verset 16, David dit « Éternel, tourne-toi vers moi et fais-moi grâce, car je suis seul et malheureux. » Pourtant, David était roi et même prophète, et il était très puissant. En dernier lieu, je parlerai aussi de la solitude à laquelle on n'échappe pas en tant que chrétien, comme la souffrance à cause de Christ. Mais, chers frères et sœurs, Dieu n'a pas voulu la solitude. Qu'est-ce que Dieu a dit dès le début? Il dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Et c'est le cœur de Dieu qui parle. Et plus tard, on découvre ce qui est dit de Dieu. On dit qu'il est le père des orphelins, et aussi qu'il plaide pour la femme qui n'a pas de mari. Dieu, dans sa demeure sainte, donne un foyer aux esselés. Il fait habiter le solitaire dans une famille. Et c'est le cœur de notre Dieu qui dit qu'il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Et ceci est profondément ancré dans son cœur et dans son être entier. Et si nous sommes baptisés dans l'Esprit Saint, ou si nous le désirons ardemment, nous serons remplis de l'Esprit Saint. Et ainsi, l'Esprit Saint ira régner de plus en plus fort en nous et de plus en plus constamment dans notre vie. De cette façon, l'Esprit de Dieu nous consolera. Alors, nous vivrons plus. Nous apprendrons plus et nous expérimenterons plus de son désir profond d'être avec nous, pour nous consoler. C'est peut-être pour cela que l'Esprit-Saint est appelé en premier lieu le Consolateur. Et en vivant notre vie de tous les jours, il arrivera que l'Esprit-Saint en nous sera touché par un enfant, par un frère ou une sœur que nous rencontrons sur notre chemin. L'Esprit-Saint nous montrera la solitude de cette personne. Et si nous avons un cœur ouvert pour la situation dans laquelle l'autre se trouve, nous aurons alors une belle occasion d'offrir un havre de paix, un chez-soi à cet autre. Ayons un cœur ouvert. Ayons une maison hospitalière. Jacques, au chapitre 1, verset 27, nous lisons. La religion pure et sans tache devant Dieu le Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se garder des souillures du monde. Ceci me fait penser à Jésus, car lui aussi compatit à nos faiblesses. Pouvons-nous imaginer une plus grande proximité de Jésus ? Il habite dans nos cœurs par l'Esprit-Saint et il compatit avec nous. Nous pouvons avoir des moments de profonde solitude et alors nous crions vers le Seigneur et tout à coup nous expérimentons qu'un pont est jeté de notre cœur vers le sien et toute notre solitude trouvera un chemin vers lui. Et ensuite, nous pourrons continuer notre route en pleurant de joie et en remerciant. Dieu est si proche, si concerné, si plein d'amour, si plein de pitié intérieure et de compassion pour celui qui vit pour lui, celui qui l'aime. Et il ne faut rien de plus. C'est pourquoi David dit dans le psaume 62 au verset 9 « Peuple, confiez-vous en lui en tout temps. Épanchez vos cœurs en sa présence, car Dieu est notre refuge. » Merci Seigneur. Jésus est le grand consolateur. Jésus nous comprend. Il nous dit « Je viens à vous ». Et il est bon pour nous de savoir que Jésus ne vient pas d'abord pour nous montrer nos fautes, car tous nous avons encore des fautes. Mais Jésus vient d'abord comme le consolateur. Un bon enseignant ne commence pas à enseigner sans d'abord avoir créé une atmosphère sereine. Il s'occupe d'abord de mettre à l'aise et ensuite il commence à enseigner. Jésus est un bon enseignant. Apprenons de lui et recevons de Jésus. David confiait à Dieu tous ses ennemis. Et alors ? Ses ennemis n'étaient plus son problème, mais celui de Dieu. Vraiment, mon âme fait silence devant Dieu. Et dans ce silence, Dieu nous raconte son amour pour nous. Il nous fait venir à la lumière. Il nous appelle à être. Le Père désire être en relation avec nous. Frères et sœurs, le Seigneur est proche. Nous pouvons l'approcher. Et c'est Jésus qui a pris l'initiative. Que fait Jésus ? C'est lui qui s'approche. Et alors il se passe quelque chose. C'est ce qu'il a fait immédiatement après sa résurrection. Nous pouvons lire cela dans Matthieu chapitre 28 à partir du verset 16. Les 11 disciples vont sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Et là, ils le voient. Jésus était là avec ses disciples. Et dans les versets suivants, on voit que les disciples se prosternent pour l'adorer. Mais quelques-uns parmi les disciples doutent. Et qu'est-ce que Jésus fait alors? Jésus s'approche d'eux et il leur parle. Il les aime tous autant, tant ceux qui l'adorent que ceux qui doutent. Jésus dit « Toute autorité m'a été donnée au ciel et sur la terre. » Il ne s'arrête pas sur leurs doutes, mais au contraire, il leur confie une mission. « Allez donc faire des adeptes parmi tous les païens. Baptisez-les et enseignez-les. Et moi, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. » Jésus ne nous laissera jamais seuls. Comme c'est formidable, n'est-ce pas? Chers frères et sœurs, c'est ainsi que Jésus est proche en cet instant. Nous pouvons l'approcher, nous pouvons le toucher. Ouvrons-lui notre cœur. Jésus est le grand consolateur. Il est celui qui peut donner du repos à nos âmes. Dans le journal d'un prédicateur anglais du XIXe siècle, M. Spurgeon, j'ai lu un commentaire du psaume 62, verset 1. « Attends Dieu, mon âme, car mon salut vient de lui. » Quelle attitude bénie que celle d'attendre le salut de Dieu seul. Et Spurgeon dit, « Ceci doit être notre attitude aujourd'hui et chaque jour. Attendre le temps de Dieu, attendre son temps, attendre dans son service, et attendre avec joie et espoir. Et en même temps, être content. Si j'attends de cette manière, je suis dans les meilleures conditions et dans la meilleure attitude qu'une créature peut avoir envers son créateur, ou qu'un serviteur peut avoir devant son maître, ou un enfant pour son père. Je prie le Seigneur qu'il nous aide à être ainsi par l'Esprit Saint. Qu'il en soit ainsi aujourd'hui, demain, et après-demain. Et s'il nous arrive une fois de perdre cette attitude, retournons vite au texte de ce psaume. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Merci Père, parce que vous êtes dans le silence. Merci parce que nous pouvons venir à vous pour nous reposer. C'est parce que vous nous aimez et qu'il est bon d'entendre vos paroles d'amour. Vous nous faites savoir que vous aussi, vous êtes heureux de notre amour. Et ensemble, nous continuons à marcher dans l'attente joyeuse. Amen.